Le Seigneur est étonnant. C'est vrai, ce matin, c'était un petit peu à l'image du temps, dans le brouillard. C'était un peu difficile de démarrer. Et même quand on a du mal à approcher le Seigneur, on a du mal à entrer dans un temps de louange, lui nous envoie sa parole. Une parole de restauration, une parole de bénédiction, une parole d'exhortation. Le Seigneur est étonnant. Et si le Seigneur nous étonne, est-ce que toi, tu as déjà étonné Jésus? As-tu déjà étonné Jésus? Il semble que Jésus n'ait été étonné que deux fois dans son ministère terrestre. Deux fois. Et quand je dis étonné Jésus, il a été carrément stupéfait. Jésus a été interlocuté, ça commence bien. Jésus a été interloqué devant la foi d'un centenier romain. Un romain, pas un juif, un romain. Son serviteur était malade, il était presque à l'article, ou presque, on peut peut-être l'enlever, à l'article de la mort. Et il va trouver Jésus et lui dit, mon serviteur est au bord de la mort, il faut que tu le guérisses. Et Jésus lui dit, ben oui, je vais t'accompagner et puis je vais venir avec toi. Et le centenier dit, non, je ne suis même pas digne que tu viennes chez moi, mais dis un mot et il sera guéri. Et Jésus est interloqué. Il est interloqué devant la foi de ce centenier. Ça, c'est le premier épisode, vous le trouvez si vous voulez regarder à la maison, dans Matthieu 8, les versets 5 à 13. Vous trouvez aussi cette histoire au début du chapitre 7 de l'évangile de Luc. Jésus a été étonné à cause de la foi d'un homme qui n'était pas de son peuple. Et il y a une deuxième fois où il a été étonné. Et cette fois-là, c'était devant l'incrédulité. Et c'était pas devant l'incrédulité des étrangers, c'était devant l'incrédulité de son propre peuple, de ses concitoyens, des gens de Nazareth. Et ce qui m'étonne, moi, c'est que chaque fois que je veux préparer une prédication, je suis amenée à prêcher des choses difficiles. Et je dis, mais Seigneur, pourquoi ? Alors aujourd'hui, on a entendu deux, trois choses. Moi, je vais vous dire, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors faites-vous violence, essayez d'accueillir le message que j'ai à vous donner ce matin. Il n'est pas facile. Nous allons parler d'incrédulité. Nous sommes dans Marc. Marc, le chapitre 6. Marc, le deuxième évangile. Chapitre 6, les six premiers versets. Jésus partit de là, c'est-à-dire dans la région de Capernaum, il est au bord du lac de Tibériade ou lac de Galilée. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, c'est-à-dire Nazareth, c'est-à-dire un peu sur les hauteurs. Il s'éloigne complètement de là où il était. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Ce matin, nous allons voir que l'incrédulité, elle a une origine. Et cette origine, ce sont nos préjugés. Et ce qui est dramatique quand on s'appuie sur nos préjugés, c'est qu'on se coupe de la relation. On se coupe de la relation parce qu'on n'accepte pas que la personne soit comme elle est. En fait, on n'accepte pas son identité. Et dans notre relation avec le Seigneur, eh bien, ça nous empêche de vivre la relation qu'il veut nous offrir et ça nous empêche d'être restaurés. Parce que c'est seulement quand on est dans sa présence et quand on l'accueille qu'il peut transformer nos vies. Alors si on est dans l'incrédulité, on lui ferme la porte. Je ne peux pas formater Dieu par mes préjugés, mais je suis appelée à être transformée par lui. Alors j'ai intitulé ce message ce matin, « Saisir la grâce en dépassant nos préjugés ». Saisir la grâce en dépassant nos préjugés. La grâce de Jésus, bien sûr, elle ne vient pas de quelqu'un d'autre. Nous sommes au chapitre 6 de l'évangile de Marc. Il s'est déjà passé plusieurs choses. Jésus a opéré des guérisons, énormément de guérisons. Il a délivré des gens qui étaient pris par des démons. Et il a même calmé les éléments quand Jésus était dans la barque et que la tempête a commencé à se déchaîner. Jésus, il dormait. Et les disciples vont vers lui et lui disent « Mais maître, ça te fait rien que nous mourions ?» Jésus qui est fatigué, il se réveille, il dit « Ok, mère, calme-toi, vent, calmez-vous, tout redevient calme. » Les disciples sont terrassés de peur et Jésus leur dit « Mais pourquoi avez-vous douté ?» Et les disciples se disent « Mais qui est cet homme ? Mais qui est-il ? » Ils ont déjà assisté à de nombreux miracles. Et là, quand Jésus prend autorité sur les éléments, les disciples n'ont toujours pas compris. Mais qui est-il ? À ce moment-là, ils accostent à Gadara, enfin dans la région des Géraséniens. Là, on n'est plus dans le territoire d'Israël. Et c'est là qu'un homme qui vit dans les sépulcres, son environnement, c'est la mort. Il voit Jésus de loin, il court, il se prosterne devant lui. « Et que nous veux-tu, toi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu ?» Et il lui dit « Est-ce que tu es venu pour nous perdre ?» En fait, les démons qui sont dans cet homme ne peuvent pas faire autre chose qu'avoir peur de Jésus. Et Jésus délivre ce démon, cet homme de tous ces démons. Il y a des milliers de démons, il les envoie dans des ports et les ports, ils dévalent la pente et puis ils se jettent dans le lac et ils meurent. Et Jésus revient dans la région de Capernaum et depuis là, il retourne dans sa patrie. Donc les disciples et les populations ont vu tout ce que Jésus a fait. Et ils ne comprennent toujours pas qui il est. Mais les miracles, ils sont là. Ils sont attestés. Et voilà, Jésus arrive à Nazareth et quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés, disaient « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains ?» Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que tous ces gens qui ont constaté la puissance de Jésus ne contestent pas les miracles. Ils ne contestent pas la sagesse, ils ne contestent pas la puissance qui se déploie par Jésus. Ils ne remettent pas en cause les faits. Pour eux, les faits, c'est une évidence. Mais ils se posent une question. D'où est-ce que ça lui vient ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Le problème de ces gens, c'est qu'ils posent une question, mais ils ne veulent pas connaître la réponse. Et ils ferment leur cœur directement. En fait, ils s'appuient sur leur raisonnement, mais pire, sur leurs préjugés. Ils ont des fausses conceptions parce qu'ils s'arrêtent seulement à ce qu'ils connaissent ou à ce qu'ils croient connaître de Jésus. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ? Ah, Marie. Marie, parlons-en, Marie, son fils aîné. Les préjugés. Et d'ailleurs, ses frères, est-ce qu'on ne les connaît pas ? On connaît même leurs prénoms, ils sont parmi nous. Il y a Jacques, Jose, Jude, Simon. Même ses sœurs, elles sont là parmi nous. Nous le connaissons, nous savons qui il est. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Comment cet homme que nous connaissons peut faire de choses pareilles ? Ça ne joue pas et il ferme la porte de leur cœur. ça les conditionne. Leurs préjugés les conditionnent. Parce que pour eux, leur préjugé, c'est qu'un charpentier ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Il peut encore moins faire des miracles. Imaginez, il n'a pas de bac. C'est pas un théologien. Il n'est pas médecin. Il n'est pas banquier. Il n'est pas empereur. Mais il n'est rien du tout. Il est juste charpentier. Et en plus de ça, il est de conditions tellement humbles. Et Nazareth, il vit, on sait bien, on vit ici à Nazareth, on connaît cette ville. Nazareth, il n'est même pas question de Nazareth dans l'Ancien Testament, figurez-vous. Nazareth, elle n'est pas considérée. C'est une ville qui a entre 150 et 200 habitants. Tellement humble. À tel point que Nathanaël a dit, mais est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? Non, mais franchement, comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'il fasse des miracles? On ne veut pas le savoir. On ne veut pas le savoir. On le connaît, c'est un des nôtres. Ce n'est pas possible. Le problème de l'incrédulité ne vient pas d'une absence de preuves. Il ne vient pas de l'absence de la manifestation de l'évidence. Mais elle vient de ce que l'on connaît, ou plutôt de ce que l'on croit connaître. Et notre incrédulité à chacun d'entre nous, et je me mets dans le paquet, parce que nous avons tous une part d'incrédulité, sinon nous aurions déjà bien changé la face du monde si nous avions une foi un peu plus grande, et nos vies seraient bien plus restaurées que ce que le Seigneur aimerait faire. Mais notre incrédulité, elle vient de notre conception erronée de Dieu, et surtout, elle vient de notre conception restrictive de Dieu. Et nous, nous avons été témoins de miracles. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nos vies ont été transformées. C'est qu'il y a quelque chose, il y a le Saint-Esprit qui témoigne dans notre cœur que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous savons que cette parole est vraie, nous savons que les prophéties, elles ont été bientôt toutes accomplies. Nous savons, nous sommes en face de l'évidence. Et pourtant, il y a des choses qui nous retiennent de vivre pleinement une vie de foi, de vivre pleinement une relation avec Dieu. Et parfois, on attend des choses des autres. On aimerait tellement que le Seigneur nous touche, mais par exemple, admettons qu'il y ait un grand homme de Dieu qui vienne ici nous visiter, une grande femme de Dieu qui vienne nous visiter, et puis qui se met à prêcher, on sait que c'est une personne qui a un ministère prophétique, on aura tellement envie que cette personne nous voie, on aura tellement envie qu'elle soit attirée pour pouvoir nous donner une parole, pour pouvoir nous imposer les mains ou quelque chose, puis on va essayer d'espérer quelque chose de cette personne. Mais en fait, on devrait plutôt dire, mais Seigneur, moi j'ai besoin de quelque chose qui me vienne de toi. Et peu importe par qui ça va passer. Peut-être qu'au lieu d'attendre quelqu'un qui a un grand ministère, peut-être qu'à chaque fois qu'on vient au culte, à chaque fois qu'on vit quelque chose, on devrait venir en étant intentionné. Seigneur, je veux te rencontrer aujourd'hui. Seigneur, j'aimerais tellement que tu me donnes une parole. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin d'une révélation plus grande. Je te cherche. Et c'est toi que je veux connaître, que je veux découvrir. Et de se fixer sur le Seigneur, tu fais comme tu veux, de la manière dont tu le veux. Je te demande que pendant ce culte, Seigneur, quelque chose se passe. Et peut-être que ce sera simplement dans la parole, un verset qui tout à coup te fait tomber la pièce de katsu, tu dis « cette fois j'ai compris ». Ou peut-être que c'est quelqu'un à la fin du culte qui va venir vers toi et qui va dire « je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pendant la louange, je ne pouvais pas m'empêcher de prier pour toi et le Seigneur m'a dit ça, ou j'ai l'impression que le Seigneur me dit ça. Et paf, c'est la réponse que tu attendais ». Mais si toi tu attends de personnes précises, où tu vas chercher tes solutions ailleurs, mais bien parfois tu peux attendre longtemps. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien de recevoir l'imposition des mains ou une parole d'une personne qui est particulièrement ointe. Je ne suis pas là-dedans. Bien sûr que Dieu a donné des dons de guérison, de prophétie, paroles de connaissance. Et il faut aspirer à ces choses-là. Mais quand notre cœur cherche les choses de la mauvaise manière, qu'une de ces personnes-là prie pour nous et que nous ne sommes pas guéris, par exemple, ça nous fait une telle frustration. Si nous avons mis tout notre focus là-dedans et que la guérison n'est pas venue, mais qui c'est qui nous reste après? Plus grand monde. Par contre, si je vais chercher ma solution en Dieu, C'est lui qui choisit comment il va venir régler ma situation. Nous avons besoin de voir Jésus tel qu'il est, sans nos préjugés, sans aller chercher ailleurs, sans essayer de décider qui il est. C'est à part les yeux de la foi, personne ne peut voir Jésus tel qu'il est. Ce n'est pas avec nos préjugés, nos a priori, nos conceptions. Et Dieu veut que nous dépassions nos préjugés pour qu'on puisse le rencontrer. Mais nous devons le laisser être tel qu'il est. Alors que les gens de Nazareth refusent de savoir d'où est-ce que ça lui vient, Jésus, lui, il leur donne la réponse. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Nul n'est prophète en son pays. Une expression devenue tristement célèbre, elle vient de cette situation-là. Elle vient de notre Seigneur Jésus. Mais Jésus va plus loin, il dit pas seulement « nul n'est prophète en son pays », il dit « un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi les siens ». Jésus parle de mépris. Jésus se sent méprisé par ceux qui l'ont vu grandir jusqu'à l'âge de 30 ans. Imaginez un peu sa tristesse, imaginez un peu le brisement de son cœur. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans son pays. Mais pourquoi? C'est quoi ce principe? C'est quoi ce principe qui fait que c'est parmi les siens? Autrement dit, si nous avons reçu un don, peut-être qu'entre nous, nous n'allons pas y croire. Peut-être que quelqu'un d'entre nous a reçu un don, mais qui ne peut pas l'exercer parce qu'il y a l'incrédulité. Et je ne parle pas seulement de ceux qui prennent la parole, je ne parle pas forcément de moi ou des gens qui sont dans la louange, mais parmi nous, est-ce que Dieu n'a pas donné des dons comme il le veut? Mais alors c'est quoi ce phénomène qui fait qu'on n'arrive pas à croire les nôtres? Eh bien, il y a une question de familiarité. Et la familiarité, elle peut avoir deux significations. Familiarité dans le sens de relation familiale, quand on se connaît trop. Et on commence à avoir une conception de l'autre, parce qu'on se côtoie depuis longtemps. Si je prends mon mari, par exemple, il me connaît. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Ça fait bientôt 30 ans qu'on est mariés. Si vous lui demandez quels sont mes goûts vestimentaires, ne lui demandez pas parce qu'il sera bien emprunté. Il peut m'observer depuis 30 ans. Mais il entend ce qui sort de ma bouche et il sait que je suis toujours insatisfaite parce que je trouve jamais les vêtements que j'aime. Donc en fait, ce que j'aime, c'est pas forcément ce que je porte. Ce que je porte, c'est ce que j'ai trouvé dans les magasins qui me va à peu près avec mon gabarit d'1m55. Voilà. Et puis les couleurs, j'ai pris ce qu'il y avait. Mais c'est pas forcément celle qui me plaise, celle que je trouve. Mais peut-être que j'attends que la mode change. Puis quand elle change, c'est toujours pas à mon goût. Tout ce que j'ai à l'intérieur, tous mes critères qui sont particulièrement complexes, qui ne simplifient pas les choses, tous mes critères à moi, je ne les ai pas écrits sur le papier. Mais moi, il y a des choses à l'intérieur que je sais. Et mon mari, même si je parle avec lui, il ne le sait pas. Et ça va dans les deux sens. On ne sait pas tout des gens que l'on côtoie, même si on les connaît bien. Et il y a des choses qui évoluent, qui se développent. Je ne peux pas connaître la destinée d'une personne si le Seigneur ne me l'a pas révélée. Je ne peux pas connaître la vie intérieure d'une personne si elle n'en témoigne pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas une vie intérieure. Je ne peux pas connaître vos vies de prière si vous ne me l'expliquez pas et que je ne peux pas la constater avec mes propres yeux. Mais peut-être que vous êtes super discret, mais que vous avez une intercession efficace puis que vous avez débloqué des choses dans le ciel et je ne sais pas que ça vient de votre prière. Il faut faire attention à nos préjugés. Ça, c'est la familiarité. C'est quand On croit qu'on connaît une personne. Et en plus de ça, on projette des choses. Moi, je peux avoir des attentes sur mon mari, parce que c'est mon mari. Et j'aimerais avoir le mari idéal. J'aimerais qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, d'une part, j'ai mes conceptions, j'ai mes préjugés qui me disent « il est comme ça ». Et en plus de ça, je suis influencée par mes désirs. Donc, quelque part, je le formate. J'aimerais qu'il soit comme ça. Mais c'est pas mon mari, c'est pas ça, ça correspond pas. Je fausse l'image, je fausse qui il est. Et si je veux absolument qu'il soit selon mes conceptions, ben je refuse qui il est vraiment, je refuse son identité. Ça, c'est la familiarité par rapport aux relations familiales qui font qu'on s'arrête juste à ce qu'on a observé. Et on pense qu'on connaît la personne à 100%. Ceux qui ont vu grandir Jésus n'ont pas soupçonné sa réelle identité. Ils n'ont rien vu et il a commencé son ministère, ils ont entendu, ils ont assisté aux miracles, ils n'ont pas réussi à y croire. Ils se sont figés sur leurs préjugés, fils de Marie, charpentier. Il y a une autre façon d'être familier, et là c'est un peu plus délicat. C'est quand on se comporte d'une manière un petit peu légère avec une personne. Quand on manque de considération, de diligence, d'attention, de respect. Être familier avec Jésus, ce qui va engendrer de l'incrédulité. Ce qui est familier avec Jésus, c'est quand Jésus, c'est mon pote. Jésus, c'est mon pote. C'est mon meilleur ami. Alors c'est vrai que parmi les enfants, des fois, peut-être même qu'il y a une chanson, « Jésus, c'est mon meilleur ami ». Pour un enfant, c'est un message qu'on peut faire passer dans le sens où c'est ton meilleur ami parce que c'est ton confident, tu peux tout lui dire. Et c'est ton meilleur ami parce qu'il t'aime, parce qu'il ne va pas te juger, parce qu'il est avec toi, il est à tes côtés, il est fidèle, oui, bien sûr. Mais il faut grandir. On ne peut pas rester au stade de l'enfant. Jésus n'est pas seulement mon ami. Jésus, il est Seigneur. Jésus, il est le Créateur. Jésus est dans le Père, et le Père est en Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est Saint. Dieu est Saint. Dieu est trois fois Saint. Il est un Dieu redoutable. Et je dois le respecter et respecter sa sainteté. Alors, c'est la même chose quand on prie Papa. C'est pas faux de prier Papa. Mais ça ne doit pas être une habitude. Quand on dit « Papa » à Dieu, c'est qu'on a ce élan du cœur. Ce cœur, ça devrait être un papa qui nous est presque arraché, qui sort de notre bouche parce qu'on est tellement ému de l'amour du Père. On est en présence de sa tendresse, on la ressent, on la reçoit et on l'exprime. C'est un élan de foi d'un enfant de Dieu qui saute dans les bras de son Père, dans la confiance. C'est le Saint-Esprit qui nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu et qui nous permet de crier « Abba, Père, Papa ». C'est presque une confession de foi qui nous prend tout entier. C'est pas faux. Mais quand je commence toutes mes prières par dire « Papa », ça devient familier, ça devient une habitude. Alors que Dieu n'est pas seulement Père. Et le Père n'est pas seulement Père, il est Dieu. Et il est saint, et je lui dois la révérence, et je lui dois le respect. Quand je vois Jésus comme mon pote ou mon meilleur ami, quand je vois le Père comme mon papa, c'est restrictif. Je le vois que comme ça. Ce sont mes conceptions restrictives, mes préjugés sur sa personne. Il est mon papa qui s'occupe de moi. Mais il n'est pas que ça. Je le mets en boîte, je le formate. Notre incrédulité, c'est parce qu'on formate Dieu. Le formatage, c'est un anglicisme. C'est un mot qui existe en français depuis l'ère informatique. Moi, quand j'ai commencé avec un ordinateur, c'était dans les années 2000, j'avais une disquette. Je sais pas si certains se souviennent de la disquette. Et s'il y avait déjà des documents dessus, puis qu'on voulait faire de la place, il fallait la formater. Formater une disquette. On effaçait le contenu pour pouvoir la réutiliser. Quand on formate un ordinateur, on enlève les logiciels, les applications, tout ça pour faire de la place, créer un environnement vierge pour pouvoir y mettre des choses. Formater une clé USB, on va vider la clé USB pour pouvoir mettre des autres choses. Nos préjugés, ils nous font formater Dieu. On efface une partie de qui il est. On enlève des choses essentielles de qui il est. On supprime des choses pour mettre nos propres conceptions. Et on ne voit plus le Seigneur tel qu'il est réellement révélé dans sa parole et tel qu'il aimerait se révéler à nous, tel qu'il aimerait qu'on ait un cœur à cœur dans la vérité. Il désire, le Seigneur désire que nous abandonnions notre familiarité pour comprendre et l'accueillir tel qu'il est, autant proche, autant saint et merveilleux. Et une manière de faire, c'est de s'habituer à le voir, à le contempler. Durant la louange tout à l'heure, Ritz nous a dit, mais parlez, dites des choses. Glorifiez, rendez gloire au Seigneur. Rendez-lui gloire. Le fait de contempler le Seigneur, vous pouvez aller dans Apocalypse 1, Apocalypse 4 par exemple, dans la salle du trône, quand il y a la description du Seigneur ou la description de la salle du trône, essayez de voir ces choses-là. Quand Jésus, il est décrit comme des pierres de jaspe, de pierres précieuses et qu'il flamboie et qu'il brille, essayez d'imaginer, mais Seigneur, mais t'es tellement grand, tellement beau, tellement glorieux que moi je peux pas comprendre, mais je veux exercer mon esprit à te voir tel que tu es et lui rendre gloire, le remercier pour qui il est, le célébrer sa beauté, exercer son âme à l'adoration. Pas seulement Seigneur, fais quelque chose pour moi, mais commencer par le voir tel qu'il est. Lui, il s'approche. Plus on s'approche en le révérant, plus il va venir et il va nous faire grandir en lui et il va nous élargir. Il va nous emmener avec lui, il va nous enseigner des choses, il va nous restaurer, il va changer notre vie. C'est ce que le Seigneur veut faire. Il ne faut pas avoir peur. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Moi, ce que j'aime bien dans ce passage, que je trouve qu'il y a carrément de l'humour, il ne put rien faire, il ne put faire aucun miracle, il a juste guéri quelques-uns. Bon, je serais assez contente de passer vers vous, je vous impose les mains, puis vous êtes guéri. Non, c'est même pas un miracle, hein. Il ne peut même pas faire de miracle, il a juste guéri. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Jésus est étonné. Jésus est étonné, il est stupéfait devant l'incrédulité des siens. Pourquoi? Parce qu'il vient de faire tellement de miracles. Il a tellement prouvé qui il est par des faits, par des gestes, par des paroles. Mais il a aussi témoigné combien pour lui c'est important de porter secours à ceux qui en ont besoin. Les gens le refusent et lui, il ne peut pas s'empêcher quand même d'en bénir quelques-uns, d'en guérir quelques-uns parce que c'est sa nature, parce que c'est ce qu'il désire faire. Pourquoi Jésus est venu sur terre? Mais juste pour nous restaurer, pour restaurer sa création et ses créatures. Jésus est venu sur terre pour se révéler, pour que nous soyons transformés, pour que nous soyons avec lui, pour que nous fassions un avec lui. Il n'est pas venu pour autre chose. Si nous n'avions pas besoin de lui, il serait resté dans sa gloire. Il n'aurait pas passé par la croix. Mais il est venu à cause de nos besoins de lui. Et voilà que son peuple le refuse. Mais Jésus, il est interloqué. Je dis, mais j'ai tout dans mes mains, j'ai tout dans ma parole, je suis là et vous n'en voulez pas. C'est un petit peu comme si je suis en train de me noyer Et puis, tu es au bord de la piscine, il y a une bouée, et puis moi, je me noie, puis je te dis, non, faut pas me l'envoyer, parce que tu sais pas viser. Mais c'est exactement pareil. Jésus est stupéfait. Mais enfin. La crédulité, les préjugés. On met Jésus en boîte, on décide de qui il est, et selon ce qu'on décide de qui il est, ben c'est tellement fantasque que c'est assez normal qu'on n'y croit pas. Il y a deux tendances générales dans notre société, enfin on va dire dans la société et dans l'Église, deux tendances. Dans la société, on pense, nos conceptions, nos préjugés font que Jésus était un personnage historique, un libre penseur qui a impacté le monde par ses valeurs sociales. Et beaucoup de monde confesse que Jésus a vraiment impacté le monde. Et il faut être drôlement culotté pour dire que la face du monde n'a pas changé depuis l'an zéro, après Jésus-Christ. Ça, c'est une des tendances. Et dans l'autre cas, j'y vais un peu fort, hein, j'y vais pas avec le dos de la cuillère, on en fait un magicien. On aimerait tellement le coup de baguette magique pour notre propre vie. Seigneur, occupe-toi de moi. Tu peux le faire. On aimerait tellement. Je sais que tu peux me guérir. Guéris-moi. C'est pas difficile pour toi. Alors on pense que Jésus est un magicien. Mais moi, je suis désolée, j'ai pas la foi pour croire en un Jésus magicien. J'arrive pas. En fait, mes conceptions témoigne contre moi que je crois des choses impossibles. Donc je suis incrédule. Et vu que je suis incrédule, en quelque part, je rejette la relation. Je rejette d'accueillir Jésus tel qu'il est vraiment. Et puisque je le rejette, ben lui, il n'a pas forcément envie de s'approcher de moi. Si les gens lui disent, mais on ne veut pas de toi, Jésus, il ne s'impose pas. Il dit, ok, vous ne voulez pas de moi, et bien moi, je vais retourner à Capernaum. Vous savez, Jésus, il est allé deux fois à Nazareth. Enfin, il a grandi à Nazareth. Il est parti, il a commencé à exercer son ministère en Galilée. Et il est revenu une fois à Nazareth. Marc ne nous parle pas de ce premier épisode, mais vous pouvez le lire dans Luc 4. Et ça ne s'est pas très bien passé. Nazareth, c'est sur les hauteurs. Il y a une grande falaise. Et les siens ont voulu le pousser en bas de la falaise. Et Jésus est passé au milieu d'eux. Son heure n'était pas encore venue. Et il est parti. Et là, il revient une deuxième fois. De tout ce qu'on sait par rapport à ce qui est écrit, c'est la dernière. Il est retourné à Nazareth. Et ça s'est de nouveau pas bien passé. Les gens l'ont rejeté à cause de leurs préjugés, de leurs conceptions erronées. Et parce qu'ils n'ont pas voulu qu'il soit qui il est, ils n'ont pas voulu l'accueillir tel qu'il est. Et Jésus, c'est pas qu'il n'a pas pu dans le sens, c'est pas qu'il n'avait pas la puissance de les toucher, de faire des miracles. Mais il a dit, mais je vais pas faire des miracles pour des gens qui n'en veulent pas. Je vais retourner à Capernaum, là où les foules viennent écouter ce que j'ai à leur dire, et là où je peux transformer leur vie, et là où ils deviendront eux-mêmes des témoins. Ils l'ont guéri juste quelques-uns, parce qu'ils se disent, non, mais c'est juste pas possible, là, je peux pas les laisser comme ça. Il est tellement bon, il déborde tellement d'amour. Quelle relation avons-nous avec le Seigneur? Est-ce qu'il m'arrive d'étonner Jésus? J'aimerais bien l'étonner par ma foi, mais pas par mon incrédulité. Le Seigneur n'attend pas que tu décides qui il est, mais il désire que tu lui fasses confiance. Si tu n'acceptes pas qu'il est qui il est, si tu n'acceptes pas qu'il peut agir comme il veut, si tu n'acceptes pas qu'il a toute la puissance pour régler tes problèmes, comme il le veut, par qui il veut, par quels moyens il veut, quand il veut, avec les circonstances qu'il veut, si tu n'y arrives pas, le croire, ça va être difficile. Si tu le refuses, ça va être difficile. Mais si tu t'entraînes, si tu entraînes ton âme, tu exhortes ton âme pour découvrir, mais Jésus, révèle-toi à moi. Montre-moi qui tu es. Accorde-moi un esprit de révélation dans ta connaissance. Viens illuminer les yeux de mon cœur. Apprends-moi à connaître ton amour. Seigneur, je suis tellement bloquée, j'ai une telle carapace, j'ai même peur. En fait, j'ai peur d'abandonner toutes ces sécurités que j'ai mises autour de moi. Viens me montrer laquelle abandonner en premier, par quoi commencer, comment te voir, comment te rencontrer dans ta parole. Quand je viens au culte, quand je viens en temps de louange, quand je vais dans le groupe de maison, quand je me mets en prière, aide-moi, rappelle-moi par ton esprit d'aspirer à te rencontrer, à fixer mes yeux sur toi d'abord. Et ensuite, tu me donneras tout ce dont j'ai besoin pour savoir dans quel sens prier, quelle parole lire, méditer, comment. Ça commence par l'adoration, la louange, rendre gloire à Dieu, plutôt que commencer directement. Papa, viens à mon secours. Il y a des situations, oui, quand on est en train de se noyer, on ne va pas commencer à dire plein de choses. C'est au secours, grouillez-vous, j'ai besoin d'aide. Il y a des moments où on doit crier au secours tout de suite. Mais le rythme de croisière, c'est nous fixer sur Jésus, apprendre à le connaître toujours mieux. La vie, c'est connaître Christ. Connaître Christ, c'est faire un avec lui. C'est que sa vie nous imprègne tellement parce qu'on ne fait plus que un. Et on est obligé pour ça d'abandonner nos préjugés. Saisir la grâce en dépassant mes préjugés. Voilà, je vous ai dit que ce n'est pas un message facile. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Je ne suis pas en train de dire notre Église est incrédule, ou si je le dis, je me mets complètement dans le même paquet. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous une part d'incrédulité. Mais le Seigneur se révèle. Le Seigneur est bon. Le Seigneur, il fait quand même des miracles. Le Seigneur, il guérit quand même. Mais ne prenons pas juste les miettes quand nous pouvons avoir le festin. Recherchons le Seigneur. Apprenons à le connaître. Dépassons nos préjugés. Amen.